lecture et relecture. La chronique de Jacques Rigaud sur Canal Académie.
À l'occasion du 200e anniversaire de l'installation des Archives nationales au Palais Soubise dans le Marais, Gallimard a eu la bonne idée de publier dans la très sympathique et intéressante collection Découverte un livre de Jean-Pierre Bablon intitulé « Les archives, mémoire de la France ». C'est de ce livre que je vais parler. Les archives sont sans doute le domaine le moins spectaculaire de ce qu'on appelle le patrimoine. On parle des musées, des monuments, des bibliothèques, et on oublie souvent les archives. Et pourtant, c'est la mémoire de l'État, c'est la mémoire de la nation. Des documents de souveraineté les plus importants, comme l'édit de Nantes ou tant d'autres édits royaux ou la Déclaration des droits de l'homme, jusqu'à la mémoire quotidienne qui reflète la vie des plus humbles à travers les âges, notre ressource, ce sont les archives. Et il y a un public pour ça. Public d'historiens et de chercheurs, les administrations qui ont besoin de se référer à leur mémoire et le public en général, qui aime les expositions qui ont lieu dans les lieux d'archives et puis qui procède également à des recherches, notamment généalogiques. Le nombre d'usagers des archives qui veulent retrouver les origines de leur famille est tout à fait considérable. D'autant plus qu'un certain nombre de documents qui sont conservés dans les archives ont une valeur juridique, probatoire. Et c'est au demeurant une matière sensible, puisqu'il y a là le souvenir de personnes et de familles, et puis qui sont parfois des souvenirs douloureux. Aux archives nationales, il y a de véritables trésors, depuis des documents mérovingiens jusque au procédé templier, le journal de Louis XVI, le testament de Napoléon, la déclaration des droits de l'homme, le serment du jeu de paume, les lois sur la séparation de l'Église et de l'État, sur l'instauration des congés payés, sont aux archives nationales. Jean-Pierre Bablon, lui-même chartiste, archiviste, qui a été conservateur du musée de Versailles entre 89 et 96, est lui-même un homme ressource, comme on dit au Canada, un homme de mémoire. Je vous citer un souvenir, je le connais depuis longtemps, et un jour, quand il était à Versailles, je lui dis « Il y a une question qui me trotte dans la tête et à laquelle je n'ai pas de réponse, vous l'avez sûrement. Qu'est-ce qui se passe à Versailles au lendemain du 6 octobre 1789, quand le roi, la reine et le dauphin, le boulanger, la boulangère et le petit Mitron, est ramené par la populace, comme disent les livres d'histoire, à Paris, et ils ne reviendront jamais à Versailles. Qu'est-ce qui se passe? Et la réponse de Bablon m'a enchanté. Il dit, on fait des travaux. Il m'explique que la monarchie étant ambulante, chaque fois que le roi, et par définition la cour, allait chasser à Fontainebleau, à Compiègne, ou quelque part, Versailles se vidait, et l'administration étant ce qu'elle est à travers les âges, il y a toujours des travaux à faire, un parquet, faire une cloison à déplacer, il aurait fait des travaux. Alors, ça n'a pas duré, mais il faut se souvenir que Versailles est resté intact. Le mobilier a été vendu à l'encan, mais le même Bablon que j'interrogeais quand j'ai eu une mission sur l'inaliénabilité des collections publiques m'a certifié que les collections royales de peinture et de sculpture sont restées absolument intactes. Et il m'a rappelé qu'au moment de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, aux alentours de 1690, quand les caisses étaient vides et que le roi devait financer la guerre, il a fondu toute sa vaisselle d'argent, vendu son mobilier d'argent. Il n'a pas vendu un tableau. Il y avait une sorte de sacralité des œuvres d'art. Voilà ce qu'on apprend de ces hommes mémoire quand on a la chance de les rencontrer. Alors ce livre, qui, comme tous les livres de la collection Découverte de Gallimard, est admirablement illustré, fort clair et fort agréable à lire, raconte la longue et complexe histoire des archives. Car pendant très longtemps, et notamment sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas d'archives nationales, pas de service public des archives. Le chartrier royal suivait le roi. Quand il partait en campagne, il emmenait son trésor et ses archives. Et Bablon nous apprend qu'à la bataille de Frédéval en 1194, le roi Philippe Auguste s'est fait chiper les archives de l'État par Richard Cœur de Lion. Et qu'on a eu un mal infini à les reconstituer, et seulement en partie. Du coup, par la suite, les principaux documents de la monarchie ont été installés sous la Sainte-Chapelle, le trésor des chartes, comme on l'appelait, alors que, dans d'autres pays, des décisions plus solennelles ont été prises. Ainsi, Charles Quint, sous son règne, l'Angleterre en 1578, le Vatican en 1611, ont créé un service d'archives. Il faut dire d'ailleurs qu'il y avait une difficulté, on le retrouve aussi dans le domaine des œuvres d'art, à distinguer les biens propres du roi et les biens de la couronne. Et c'est seulement au XVIIe siècle que le concept de document d'État a commencé à apparaître, mais sans qu'il y ait une véritable organisation. Du coup, il y avait une infinité de dépôts d'archives dans les abbayes, dont c'était une des missions, dans les parlements de l'Ancien Régime, qui conservaient leurs propres archives, et aussi les édits royaux qu'ils devaient enregistrer. On comptait, nous dit Bablon, en 1780 par exemple, 5700 dépôts d'archives. La Révolution arrive, et un des faits les plus significatifs est que dès l'Assemblée constituante, celle-ci décide de conserver les documents relatifs à ses travaux, aux lois qu'elle vote et ce qu'on appelle maintenant les travaux préparatoires. Et elle va nommer, dès juillet 1789, un garde des archives, Camus, qu'on retrouvera sous Napoléon, avant la longue suite de ses successeurs. La Révolution, au moment, en 1794, une loi du 7 Messidor en deux, organise les archives de la République, auxquelles tout citoyen a accès. On se fondait sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui dit que la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Alors, j'insiste sur ce point parce qu'on a souvent tendance à identifier la Révolution à la démolition d'un ancien système et même parfois au vandalisme. Alors c'est vrai que le vandalisme s'est attaqué au signe jugé insupportable de l'absolutisme et aussi de l'Église. C'est vrai aussi que beaucoup de biens de l'Église, de l'aristocratie, ont été expropriés, vendus souvent comme biens nationaux, encore que beaucoup de ces documents ont été confiés à des villes. L'exemplaire dit de Bordeaux des Essais de Montaigne que j'ai eu la chance de consulter a été sous la Révolution confié à la bibliothèque municipale de Bordeaux qui l'a conservé jusqu'à nos jours. Mais ce travail de la Révolution quant à sa propre mémoire et quant à la sauvegarde de ce qui était la mémoire nationale est quelque chose qu'il faut souligner. Ceci d'ailleurs étant l'héritage direct du siècle des Lumières, l'éducation du peuple devait se faire, et notamment par les documents. Il faut dire que, avant la Révolution, sous l'Ancien Régime, Mirabeau disait que la France était un agrégat inconstitué de peuples désunis. Nous nous faisons de la monarchie d'Ancien Régime une sorte d'idée de jardin à la française. C'était beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce que, jusqu'à la Révolution, le droit était largement coutumier, résultant donc de traditions orales, et il était divers à travers l'ensemble du territoire. La Révolution va créer une unité juridique et politique de la nation et va avoir le sens de la mémoire. Je pourrais citer un certain nombre d'exemples. En 1796, on instaure un service d'archives par département qui ne sera vraiment structuré que par Guizot en 1840. Et je dis d'ailleurs incidemment que Guizot historien lui-même, aura joué un rôle considérable dans la construction du concept moderne de patrimoine. Mais c'est sous le consulat et sous l'Empire que le service public des archives, comme beaucoup d'autres, va prendre tournure. Bonaparte va d'abord rassembler dans la grande galerie du Louvre toutes les archives des assemblées de la Révolution. La constituante, la législative, la convention, le directoire, qui toutes, à l'image de la constituante, avaient rassemblé et conservé leurs archives. Il va mettre tout ça dans la grande galerie du Louvre. Mais sa préoccupation, qui est logique, complètement rationnelle, est de trouver un lieu unique pour les archives de la nation. Et il aura à ce sujet un projet important qu'on a oublié dans ce qui s'appelait l'île des Cygnes, qui situait entre les Invalides et le Champ de Mars. Il y avait une île, un bras de la Seine, qui a été comblé. Et dans ce quartier nouveau, qui est autour du Quai d'Orsay, vous voyez, après les Invalides, il avait imaginé d'installer non seulement les archives, mais l'École normale supérieure, l'École des beaux-arts et toute une série d'institutions. Ce projet, en définitive, ne verra pas le jour. Et Napoléon utilisera des locaux devenus vacants du fait de la Révolution et de l'émigration des nobles, l'hôtel de Soubise dans le Marais et l'hôtel de Rohan Strasbourg, qui est mitoyen. C'est là qu'il va installer les archives nationales. Elles y sont toujours, je parlais tout à l'heure, du 200e anniversaire. Il va confier à Camus, celui de 1789, dont je parlais tout à l'heure, la responsabilité de ce service, et c'est Donoux, dont le nom dit encore quelque chose, qui lui succédera en 1804. Parallèlement, la formation de ceux qui ont la garde des archives sera envisagée. Gérando avait proposé un projet à Napoléon en 1807 qui n'aura pas abouti. C'est seulement sous la Restauration, une ordonnance de 1821, donc du temps de Louis XVIII, qui va créer l'École des Chartes, qui trouvera son statut définitif, là encore sous Guizot et Louis-Philippe, en 1846. Je dis un mot de l'École des Chartes, car c'est aussi une chose qu'on oublie, c'est qu'au cours du XIXe siècle, et avant qu'on parle de politique culturelle, quand il n'y avait qu'une administration assez squelettique des beaux-arts, on a constitué ce que j'ose appeler les corps savants du patrimoine, dans le domaine des archives, des monuments historiques, des bibliothèques. Et l'École des Chartes va former les bibliothécaires et les archivistes en mettant l'accent sur les principales disciplines que Bablon explique d'ailleurs très bien, la paléographie, la diplomatique et la sigillographie. La paléographie, c'est le déchiffrement des écritures anciennes, le déchiffrement des gestes graphiques, de la manière dont on écrit, des abréviations. Je me souviens, j'avais, quand je présidais aux destinées de RTL, un document ancien qui avait été remis par je ne sais qui et qui datait de François Ier. Un document autographe de François Ier, qui était pour moi complètement illisible. Et recevant Hubert Landais, à l'époque directeur des musées de France, je lui ai montré ce document, qu'il a lu à livre ouvert, parce que, paléographe, il était capable de déchiffrer l'écriture de François Ier. La diplomatique, c'est l'étude des formes rédactionnelles des actes des autorités publiques et privées. Et la sigillographie, c'est le déchiffrage des sceaux qui accompagnaient chaque document officiel, sceaux en cire, avec toute une série d'inscriptions. Donc cette École des Chartes, a créée donc sous la Restauration, aura formé pas seulement des historiens, mais des spécialistes des documents, de l'écriture, des écritures et de tout ce qui permet de les déchiffrer. Et beaucoup de personnes illustres, y compris dans des domaines autres que les archives, je pense à Georges Bataille, à Roger Martin Dugard, à Jeanne Laurent, à Régine Pernoud, sont des chartistes qui ont reçu ce type de formation. Voilà donc ce qu'il faut dire sur les origines des archives et il faut insister sur le fait que, alors que dans d'autres domaines, les règles d'une gestion, j'oserais dire d'un management, ont été inventées assez tôt, dans le domaine des archives, on a longtemps tâtonné. D'autant plus qu'on s'intéressait surtout, je dirais, à l'aspect historique et politique des archives. Mais avec la multiplication des administrations, la multiplication de l'imprimé, des écrits de toute nature, on s'est trouvé devant des masses considérables. Et le ministère de l'Éducation nationale, auquel était rattaché avec la direction des Beaux-Arts les archives, a longtemps hésité dans ce domaine. Je veux quand même signaler qu'il y a eu de très grands directeurs des archives, et à notre époque, des hommes comme André Chanson, et avant lui Charles Brébant, avant Jean Favier, qui a dirigé les archives pendant 20 ans, et son successeur actuel, qui est Martine de Boisdeuf, ce sont de grands serviteurs de l'État qui ont joué un rôle tout à fait considérable. Bablon ne se borne pas à raconter cette histoire qui en elle-même est passionnante parce qu'elle est à la fois révélatrice des hésitations qu'on a pu avoir pendant longtemps dans ce domaine et aussi de la continuité historique qui fait que entre la Révolution et notre époque, il y a eu des progressions successives dans le traitement des archives, dans leur étude, dans leur collecte et dans leur sauvegarde. Actuellement, donc, il y a une direction générale des archives de France, dont on peut se demander d'ailleurs quel va être l'avenir, car il est question de réforme des structures de l'administration. Et je dois dire que je suis un peu sceptique et un peu inquiet de l'approche purement budgétaire et comptable de ce domaine. C'est ainsi, par exemple, qu'au ministère de la Culture, à part un secrétariat général transversal, on envisage, et c'est quasiment décidé, la création de 3 directions, le patrimoine, la création et industrie culturelle et médias. Réunir dans une même direction du patrimoine, les archives, les monuments et l'architecture, les musées et peut-être les bibliothèques, bon, c'est une idée, mais il faut bien voir que les métiers sont complètement différents. Le métier des archivistes n'est pas celui des conservateurs de musées, et encore moins celui des architectes des monuments historiques. Et donc on peut se demander quelle usine à gaz on est en train de nous préparer. D'autant plus que la Direction générale des archives, telle qu'elle existe actuellement, a à la fois la garde directe des archives nationales, la tutelle des archives départementales, qui dépendent des conseils généraux, donc des départements, même si les directeurs des archives départementales sont des artistes et relèvent de la direction générale. Et puis, il y a toute une série de choses qui viennent naturellement aux archives. Le minutier central des notaires, qui est un élément essentiel pour l'histoire et pour la généalogie, relève des archives. Depuis l'époque de Charles Brébant, on a encouragé des personnalités ou des entreprises à verser aux archives nationales leurs archives, qui constituent un élément fondamental pour notre histoire. Il y a d'autre part, à notre époque, une prolifération des documents qui sont produits. Et il y a maintenant, en plus, et pour tout simplifier, l'électronique. Tout ce qui est en langage électronique sur des supports autres que le papier, et qu'il faut là aussi conserver avec des techniques qui varient. Et donc la numérisation de toute une série de documents, comme d'ailleurs c'est le cas dans le domaine de l'audiovisuel, et c'est ce que fait fort bien d'ailleurs l'Institut national de l'audiovisuel, ça pose des problèmes extraordinairement nombreux. Si l'on ajoute à cela que les secousses de l'histoire ont donné parfois aux archives une importance plus grande, Je pense par exemple à l'occupation et à tout ce qui a pu être pris par les Allemands, récupéré, divulgué dans des conditions parfois délicates. C'est extrêmement sérieux et c'est un domaine tout à fait sensible. Il y a un autre aspect, c'est que dans le domaine proprement politique, pendant fort longtemps, les ministres, les présidents du Conseil, ancien nom des premiers ministres, les présidents de la République, produisaient évidemment des documents officiels qui venaient naturellement aux archives, mais à chaque crise ministérielle, les cabinets emportaient leurs archives. Et donc il a fallu instituer des règles. De même que devant cette prolifération de la production de papier, il a fallu attendre très longtemps et seulement aux alentours des années 40 ou 50 pour que dans chaque ministère, il y ait un archiviste patenté qui conseille le ministère en ce qui concerne la sauvegarde des archives. Et les présidents de la République successifs, à commencer par le général de Gaulle, ont pris la décision expresse de déposer aux archives nationales leurs archives. Moi, je me souviens que quand Jacques Duhamel a quitté le ministère des Affaires culturelles, dont relevait la direction des archives, j'ai prescrit à sa demande le dépôt des archives du cabinet de Jacques Duhamel aux archives nationales. Et d'ailleurs, il m'est arrivé de recevoir des chercheurs qui travaillaient sur cette période et qui me citaient un document signé Duhamel ou signé par moi-même. Il y a donc une normalisation qui s'opère. Mais devant cette masse et cette complexité, il y a évidemment des décisions qui ont dû être prises. Ainsi, par exemple, tout ce qui concerne l'outre-mer, l'administration coloniale et l'administration des départements et territoires d'outre-mer est concentré à Aix-en-Provence. De même, on a créé, il y a déjà un certain nombre d'années, à Roubaix, un centre d'archives relevant des archives nationales, la direction des archives, dans le domaine du droit du travail et de la vie des entreprises. On a créé, et j'ai eu à jouer dans les années 70 un certain rôle dans cette création, on a créé à Fontainebleau une cité interministérielle des archives où sont déposés les documents sélectionnés dans chaque ministère pour être versés aux archives nationales. Et cette cité interministérielle de Fontainebleau est chargé de faire le tri, d'isoler les documents les plus importants et de conserver, sous une forme ou sous une autre, tout ce qu'il doit l'être. Il faut aussi noter que certaines administrations ont un service d'archives qui leur est propre. C'est le cas du ministère de la Défense et aussi celui des Affaires étrangères, où sont conservés des documents très importants, y compris, c'est là que ça figure, le manuscrit des mémoires de Saint-Simon. Il y a eu une loi en 1979 qui avait déjà été préparée dans les années où j'étais rue de Valois et qui a été votée en 1979, qui est la charte, en quelque sorte, actuelle des archives. Donc voilà ce que l'on apprend en lisant le livre de Jean-Pierre Bablon, dont je veux redire combien... sans aucune austérité, mais avec une grande exactitude scientifique, il retrace à la fois l'histoire des archives, nous donne une idée des trésors qui sont ainsi conservés et ce que peut être la gestion des archives. Je recommande donc vivement la lecture de ce petit livre de la collection Découverte. Si vous me laissez encore quelques instants, je voudrais dire, puisque je n'oublie pas, que cette chronique parle de lecture et de relecture. Donc, nos auditeurs peuvent avoir aussi envie de relire, et pas simplement des livres qui viennent de paraître. Mais il y a tellement de choses à relire qu'on ne sait pas très bien par quoi commencer. Il faut des prétextes ou des raisons pour relire. Et je vais en donner une de ces raisons à tous ceux qui aiment Peggy, Bernanos et Claudel, ou l'un d'entre eux, et qui ont envie de relire ces trois grands auteurs. Je leur recommande le livre de Jacques Julliard, paru chez Flammarion il y a quelques semaines et qui s'appelle « L'argent, Dieu et le diable ». Jacques Julliard, dans ce livre, donne son approche personnelle de ces trois grands auteurs qui ont joué dans sa formation à la fois de chrétiens, aux racines chrétiennes très fortes, et d'hommes de gauche, et qui sont à l'origine un peu de sa vocation. Il en parle très bien, mettant les choses au point, notamment sur l'antisémitisme de Bernanos, qui n'est pas niable, mais qui est bien antérieur aux catastrophes qu'on a pu connaître avec le nazisme, qui a été sérieusement corrigé par la suite, de même sur Claudel, où on parle souvent de l'ode à Pétain, etc. Il montre que Claudel était un Français, un vrai patriote, et qu'il a très vite pris ses distances par rapport au régime de Vichy. Mais ça n'est pas l'essentiel. C'est sur l'œuvre de ces trois hommes qui ont été chacun un marginal, même si Claudel était ambassadeur de France. Dans son œuvre littéraire, il était en dehors de tous les courants. Bernanos, l'auteur de « La France contre les robots », était lui-même très critique vis-à-vis de la société de son temps, et Peggy encore davantage. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant dans le livre de Julia, c'est qu'il montre que ces hommes, en opposition à la société de leur temps, ont préfiguré une part de la sensibilité moderne. Il ne va pas jusqu'à faire de Claudel l'inventeur de l'écologie, mais il y a un côté prophète chez ces visionnaires. Une manière de se situer par rapport aux pesanteurs de leur époque qui leur donne une extraordinaire modernité. Et à cet égard, ce livre de Julliard, livre chaleureux, très documenté, très, très fouillé, donne une formidable envie de relire les grands cimetières sous la lune, ou les grandes pièces de Claudel, ou les œuvres de Peggy. Voilà une bonne manière de retourner aux auteurs que nous aimons.